quand les grands prêtres du libéralisme réfléchissent à la politique forestière française. Voilà, ça c'est l'Union syndicale de l'Office national des forêts qui pose la question, qui s'inquiète. C'est par ici que ça se passe, j'ai l'impression. Voilà, Office national des forêts, non à la délocalisation de la direction générale.
Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bonjour. Mais dites-moi, là, ce bâtiment-là, c'est stylisé, quoi, ça voudrait être...
On le doit à Madame Pompidou, ce bâtiment.
Oh, les vénards.
Claude Pompidou, hein. Claude Pompidou.
Oui, parce qu'au début, on était une administration qui s'appelait les Eaux et Forêts. Et en 64-66, dans ces années-là, on a créé l'ONF sur les décombres de cette administration. Donc on est devenu un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. C'est là qu'on a mis le ver dans le fruit, en fait.
Alors vous êtes...
Donc Michel Bénard, alors je suis secrétaire général adjoint de la CGT Forêt et en même temps j'exerce les fonctions d'agent patrimonial en Seine-et-Marne. Donc il fallait bien loger la nouvelle direction de l'Office national des forêts et puis Madame Pompidou qui était très préoccupée par l'aspect architectural voulait que ce soit dans un bâtiment d'une forme originale. Donc ça représente pas vraiment un arbre, nous on l'appelle plutôt la morille.
La morille.
Oui, la morille, c'est un champignon.
Parce qu'on pourrait aussi dire que ça ressemble à une chandelle, c'est-à-dire un arbre qui a été terrassé par une tempête néolibérale du profit, de la mise en concurrence.
Ça va être une chandelle maintenant, ça va en être une.
D'autant plus que ce bâtiment, on doit le quitter, l'ONF... doit quitter ce bâtiment puisque dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, RGPP qui est bien connue, François Fillon a décidé que la direction générale de l'ONF allait s'implanter à Compiègne. Donc ça a commencé en septembre 2008 pour nous, avec les diminutions d'effectifs, avec le non-remplacement des départs en retraite, l'obligation pour l'établissement de faire des bénéfices et de donner des dividendes à l'État, l'État se considérant comme un actionnaire de cet établissement public, et pour ce faire, il fallait produire plus de bois. Hein. Vous savez, le Grenelle de l'environnement qui est venu par la suite a dit « la forêt, c'est produire plus et préserver mieux ». Comme si on pouvait préserver la biodiversité tout en rentabilisant au maximum l'exploitation et la production de bois. Et on risque d'avoir une surexploitation qu'on a connue dans les siècles passés. Hein, quand on a eu le développement des premières industries, ça s'est fait souvent par une surexploitation de la forêt, par exemple. Cet impact, on le ressent 100, 150 ans, 200 ans plus tard. Et justement, nous, on veut alerter la population actuellement parce que ce qu'on est en train de faire, c'est justement une espèce de fuite en avant. C'est-à-dire, on va exploiter la forêt en termes de sources d'énergie pour économiser le pétrole, par exemple, qui pollue beaucoup, mais le bois comme combustible pollue également beaucoup. Alors qu'on sait très bien que notre potentiel n'est pas si étendu que ça et qu'on n'aille pas vers une surexploitation dont les conséquences se ressentiront peut-être dans 25, 50 ou 100 ans.
Le bois est une énergie renouvelable, mais lentement, quoi, c'est ça?
Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que les forestiers, ils ont toujours eu ce regard et cette façon de gérer les choses avec une certaine tempérance, une certaine patience. Nous, ce qu'on exploite aujourd'hui, c'est le travail des générations de forestiers qui nous ont précédés.
Mais produire plus tout en préservant mieux, c'est pas un oxymore, ça c'est possible?
C'est un oxymore, tout à fait. Vous avez... C'est tout à fait ça. Et actuellement, hier et aujourd'hui, notre direction générale organise un colloque pour essayer d'expliquer que ce n'est pas une contradiction de produire plus et de préserver mieux.